France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
On le sait peu, c'est en voyageant aux États-Unis en 1947 que Simone de Beauvoir a commencé à concevoir le deuxième sexe, cette somme sur la condition féminine qui allait devenir la bible du féminisme pendant de nombreuses années. Les réalisatrices Valérie Urrea et Nathalie Maduro sont parties sur ces traces américaines pour leur documentaire. Elles seront mes invitées à partir de 13h. Mais tout de suite, on commence avec notre plateau critique du jour. Il sera question d'Insider, le nouveau film de Steven Soderbergh, et du documentaire Black Box Diaries de la journaliste et réalisatrice japonaise Shiori Ito. Voilà le programme et voici les critiques. Raphaël Pirer, critique de cinéma pour les revues AOC et Trois Couleurs, bonjour.
Bonjour.
Antoine Guillot, producteur de l'émission Plan Large tous les mercredis, samedis à 14h sur France Culture, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Un mois à peine après Présence, son précédent film aux moyens modestes, on va dire, Steven Soderbergh revient avec Insider et on ne joue pas du tout dans la même cour ici. Casting de luxe avec Cate Blanchett et Michael Fassbender dans les rôles principaux. Intrigue à tiroir, sublime baraque. Bienvenue chez les Woodhouse, couple d'espions anglais glamour à qui tout réussit. Jusqu'à ce que la présence d'une taupe dans les services secrets de Sa Majesté soit décelée et que Monsieur soupçonne Madame. On l'aura compris, la parodie n'est pas vraiment loin. Le scénario est signé de l'incontournable David Cup, à qui on doit entre autres Jurassic Park, Les Missions Impossibles et Panic Room. On commence par un avis rapide, Raphaël Pirer.
Alors, Steven Soderbergh fait un pur film de scénario où il mélange un motif qui est très ancien, celui de la comédie de la conjugalité, de qu'est-ce que c'est que l'infidélité, la confiance dans le couple, et puis quelque chose qui se voudrait moderne, qui est la question des nouvelles technologies et le fait que maintenant tout le monde peut s'espionner dans le couple. Sauf que là, effectivement, ça se passe dans les services secrets, donc que les méthodes pour espionner son conjoint sont vraiment très importantes. On est dans une espèce de parodie d'Agatha Christie et de satire sur la bourgeoisie, sur le couple, qui est un jeu de scénario très habile, très bien mené, mais où on a l'impression que cette question des nouvelles technologies lui monte peut-être un peu trop à la tête et par moments on a un peu l'impression que la mise en scène est faite par une intelligence artificielle, quoi.
Antoine Guillot.
Alors, vous avez appelé ce film The Insider, qui est le titre français. Et oui, c'est un titre français d'un film qui s'appelle en fait Black Bag. Donc, il sort au Québec sous le nom Le Sac Noir. Et le sac noir, c'est aussi le body bag, le sac mortuaire. Et j'ai effectivement l'impression que ce film renferme une forme tout à fait morte.
Une forme morte. Alors, on va y revenir évidemment. Raphaël Pirer, le scénario quand même est visiblement assez efficace, c'est ce que vous disiez.
Ça va vraiment dans ce goût qu'il y a en ce moment de remettre au goût du jour Agatha Christie qui se décline sous toutes ses formes, en série télé, en adaptation au cinéma. J'ai pensé un peu au film Coup de théâtre aussi de Tom George qui était sorti en 2022 mais qui s'amusait beaucoup avec sa forme pour le coup, qui s'amusait beaucoup de ses effets de mise en scène. Donc Soderbergh qui est un cinéaste qui s'intéresse au genre et qui essaye un peu tous les genres, qui a un côté un peu caméléon, s'intéresse à cette forme-là du film d'espionnage, mais il en fait voilà une pure mécanique, un pur jeu de l'esprit quoi.
On va écouter la bande-annonce si vous voulez bien avant de continuer à discuter.
Where are you off to?
Black bag.
Right. You asked how it works. To be with someone in this business, this is how. You each know what you know, and you know what you'll do, and you never discuss certain things again.
Je la surveille, et je pars du principe qu'elle me surveille aussi. Je ferai n'importe quoi pour toi.
C'est vrai?
Oui.
Si les événements t'obligeaient à choisir, tu ferais passer ton couple avant tout?
Je suis dévouée à ma vie conjugale. C'est mon point faible professionnel. Je t'aime.
Il y a une faille de sécurité.
Qu'avez-vous fait?
Quelqu'un de chez nous a volé quelque chose. Quelque chose de très précieux.
Vous n'imaginez pas les dégâts. Identifiez la fuite.
The Insider de Steven Soderbergh. Antoine Guillot, cette forme morte, alors qu'est-ce que c'est?
Ben, cette forme morte, c'est peut-être déjà le désir de Steven Soderbergh de faire du cinéma. Manifestement, il y a une scène qui l'intéresse dans le film, qui est assez rigolote à voir, qui est un dîner où sont conviés à la fois des amis, des collègues et des suspects. Et à qui on va administrer du pentotal ou une autre drogue, enfin celle qui vous enlève tout sur moi et qui vous fait dire tout ce que vous avez sur le cœur. Donc c'est une espèce de grand déballage assez rigolo où on sort des conventions sociales, le tout filmé de manière parfois un peu acrobatique et bizarre, avec notamment des plongées comme s'il y avait des caméras de surveillance dans les coins de la pièce, avec des chants contre chants qui oh, quelle audace enfreigne la sacro-sainte règle classique des 180 degrés. Donc ça donne une perception très perturbée de l'espace pour le spectateur, ou des panoramiques en, en grand angle.
Il y a un tour
voilà,
de table
enfin, qui déforme là encore l'espace. Donc ça crée un malaise, comme si nous-mêmes nous étions drogués. Et tout ça est assez rigolo et se finit par, par des coups de couteau dans le contrat conjugal, on dira, pour expliciter une scène assez tranchante. Mais hormis ça, on a presque l'impression que Soderbergh s'ennuie, s'ennuie à faire son film, réactivant des formes extrêmement éculées et donc assez mortes, qui sont celles à la fois du whodunit, c'est-à-dire qui est le coupable, le côté Agatha Christie, mais enfin c'est presque du Cluedo par moment. Puis pour peu qu'on ait lu un peu son Agatha Christie, on sait que ah ben non, il n'y a pas forcément un coupable. C'est, si ça se trouve, il y en a plusieurs. Hein, oh là là. Et le tout sur une intrigue qui bon, effectivement, se passe dans un monde de l'espionnage, mais qui est presque un monde imaginé sur le papier, c'est-à-dire que tout le monde est très riche. Je me dis, ils sont bien payés quand même, les fonctionnaires anglais, dans des décors voilà rutilants, mais un peu tristounes. Ils voudraient retrouver un peu le glamour des Ocean's Eleven, ouais. Mais enfin, le glamour, c'est des cols roulés et du tweed, donc c'est quand même, c'est là encore, des vieilles choses mortes un peu. Et on a un coup de papier, c'est-à-dire qu'on ne croit pas une seule seconde à leur relation conjugale, il se passe absolument rien entre eux, donc là aussi le couple est mort et rien, même l'intrigue de jalousie, de surveillance, de paranoïa du couple qu'on vient d'évoquer, en fait n'agite rien, c'est-à-dire que tout est à l'image en fait de ce personnage de Michael Fassbender qui est froid, qui est comme un robot, qui avance comme un robot, et le film avance comme un robot. Donc l'hypothèse de l'intelligence artificielle effectivement est assez séduisante de ce côté-là, mais ne produit plus grand-chose pour le spectateur qui regarde ça avec un ennui un peu rassé, en se disant oui c'est une chose qui nous passe sous les yeux sans rien provoquer en fait de vraiment saillant quoi. C'est-à-dire pendant tout le long du film, on se dit mais quand est-ce qu'il va se passer quelque chose, une fois que cette scène, là encore, dont je pense qu'elle est le cœur du film, est évacuée, sauf qu'elle apparaît très vite et après il y a tout à dérouler. Alors effectivement, la mécanique scénaristique de David Koepp pourrait séduire, mais là encore elle tourne complètement à vide. On sait bien que le quelque chose dont on a parlé, quelqu'un a dérobé quelque chose, n'intéresse personne dedans. C'est bien de faire du MacGuffin, comme disait Hitchcock, c'est-à-dire le truc derrière lequel tout le monde court et qui a l'air très important, mais eux-mêmes n'ont pas l'impression de trouver de l'importance à ça. Donc
c'est un film qui parle du monde.
Qui en fait trouve de l'intérêt. Qui trouve de l'intérêt? Oui, mais il voudrait parler du couple, mais il n'arrive même pas à en parler. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce film? Au bout du compte, ben voilà, il n'y a que de la mort.
Raphaël Pierre.
C'est aussi le festival de l'underacting, ce film. C'est-à-dire qu'on a Michael Fassbender qui jouait déjà l'underplaying à fond dans The Killer de David Fincher.
Alors, ça voulait dire que c'est un jeu à l'économie
Ah oui, il n'y a aucune émotion apparente, puisque ce sont des agents secrets. Ils sont tous capables de dissimuler leurs émotions, au point même de n'en avoir presque plus. Ce qui est un peu amusant aussi, c'est qu'ils se succèdent tous dans le cabinet de la psychiatre et on découvre que c'est tous des junkies absolus qui sont sous antidépresseurs parce qu'ils sont en syndrome post-traumatique, mais on ne voit jamais affleurer leurs émotions. Donc le sujet du film, c'est ça, c'est que ces acteurs, Cate Blanchett et Michael Fassbender, et puis les autres couples qui sont des espèces de variations de cette question de l'infidélité, de comment faire durer le couple, ils sont tous dans une une maîtrise de leurs émotions absolues qui confine effectivement à l'ennui, parce que c'est leur rôle, mais du coup, leur rôle ne produit pas grand-chose. Et il y a même, je pense que je vais faire bondir Antoine en disant ça, mais il y a presque un clin d'œil à Eyes Wide Shut, ou en tout cas, je pense qu'il y a, c'est un peu un horizon pour Steven Soderbergh de raconter un peu quelque chose comme ça, de, on a un couple dans sa chambre qui n'arrive pas à faire l'amour au début et qu'on va retrouver à la fin. Et donc, entre les deux, il y a eu la suspicion, il y a eu l'enquête. Et donc, la symbiose entre les deux est censée avoir changé. Sauf que effectivement on ne croit pas du tout au baiser de ce couple, à la sensualité entre eux. Ça ne marche pas du tout. Donc, ils restent dans des personnages qui sont de façade et qui ne montrent rien de leurs émotions. Et ça ne va pas plus loin que ça.
Mais je vous ai entendu quand même prononcer le mot plusieurs fois, l'un et l'autre d'ailleurs, amusant. Donc est-ce qu'il y a au moins ce plaisir-là du, je sais pas, ce petit plaisir coupable où on suit un ou d'une, comme vous disiez Antoine?
Oui, enfin, on regarde se dérouler quelque chose devant nous où personne ne semble impliqué, où on n'est pas non plus, mais où effectivement, c'est pas si désagréable à regarder. Alors, peut-être que le passage prolongé de Steven Soderbergh sur les plateformes et son évacuation du grand écran l'a conduit à ça, c'est-à-dire cette espèce de flux qu'on regarde passer, qui finalement pas la pire des manières de perdre du temps devant un spectacle, mais en se demandant, mais qu'est-ce qu'on regarde? Enfin, c'est sans arrêt, je me disais ça, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Qui a un intérêt là-dedans? C'est-à-dire, qui s'implique une seconde? Qui ne fait pas quelque chose de purement technique, touchant son cachet, que ce soit le scénariste, les acteurs, le décorateur, enfin, tout le monde fait bien son truc, mais sans y être jamais vraiment. Où est-ce qu'il y a de la vie, une once de vie dedans? Moi, je ne la vois pas une seconde. Alors, c'est vrai, encore une fois, cette scène de repas est assez rigolote. Mais qu'est-ce qu'il en reste?
Steven Soderbergh là fait la photo, fait le montage aussi. Techniquement, on va dire, si on peut se raccrocher à ça, peut-être l'image en elle-même.
Alors non, c'est vraiment ce qui pêche dans le film, que la direction artistique est vraiment assez catastrophique et
Elle est brunâtre, on dirait.
Et il y a surtout des halos de lumière en permanence pendant ce dîner en particulier. Ils ont chacun une petite lampe devant eux qui crée un faisceau de lumière qui occupe tout le plan et qui est assez laid à regarder, ou même là, il y a souvent des baies vitrées qui créent un espèce d'effet de lumière rasante assez étrange. Du côté du son aussi, on est dans un son très blanc, très peu travaillé, avec très souvent une petite musique d'ascenseur pour faire passer le temps si jamais on trouve l'intrigue pas assez nourrissante. Moi, je trouve quand même assez divertissante cette intrigue, mais c'est vrai que par moments, on peut fermer les yeux et c'est exactement la même chose.
Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Non, peut-être pour The Insider.
Je précise quand même qu'il y a un livre qui sort, qui est sorti hier, de Frédéric Mercier et Christophe Chabert aux éditions Marais, qui se pose la question de est-ce que Steven Soderbergh est un auteur à travers tous ces allers-retours avec Hollywood, avec les plateformes, avec un cinéma plus en dehors des systèmes, et qui traite là de la première période de son œuvre.
Et qui interroge la question du rien chez Soderbergh.
Oui, qui est assez
présente. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'acharne à filmer le rien.
The Insider, Steven Soderbergh.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Shiori Ito ne peut compter que sur elle-même. Elle a donc décidé de documenter son combat, d'une jeune journaliste japonaise qui a voulu porter plainte pour viol contre un homme proche du pouvoir. Plainte classée sans suite, l'agresseur ne sera jamais véritablement inquiété. La victime, en revanche, sera traînée dans la boue dans un Japon très en retard sur la reconnaissance des violences sexuelles. Ce documentaire intitulé Black Box Diaries est à la fois une dénonciation intime et une enquête sur l'affaire en question. On précise qu'à l'heure où nous parlons, le film n'a toujours pas de distributeur au Japon. Un avis rapide, Antoine Guillot.
Alors, il y avait tout à craindre de ce film, étant l'adaptation du livre qu'elle avait déjà écrit en 2017. Venant d'une journaliste, on pouvait s'attendre à un dossier sérieux sur une histoire déjà assez forte en soi et très émouvante. Mais je m'attendais en tout cas, à titre personnel, à un de ces documentaires précisément faits par des journalistes très, très formatés. Or, la très grande surprise de ce film, c'est qu'il invente sa forme en permanence. permanence pour pouvoir mettre des images sur quelque chose qui est irreprésentable et qui est cette fameuse boîte noire qui fait le titre du film. Donc entre les, après le body bag, après le black bag, voici la black box. Sauf que là, c'est très très inventif cinématographiquement parlant et c'est ce qui m'a beaucoup séduit.
Raphaël Pirard.
Ce film rassemble ce qu'on peut attendre du documentaire, c'est-à-dire qu'il enregistre une parole, il documente des faits. Ça, c'est très surprenant à quel point elle filme pendant 8 années quand même, pour plein de raisons différentes. Et puis, c'est un film qui capture les émotions aussi de sa cinéaste. Elle se filme elle-même avec vivant des émotions très fortes. Et donc, c'est absolument fascinant d'être en contact de ces images-là.
On va écouter la bande-annonce de Black Box Diaries, qui est évidemment en version originale, mais vous allez saisir un petit peu l'ambiance.
I have to be speaking up. This could be a big change in my life and many others. That was in the skater. He wanted to talk about something.
上の方から、まあ、組織の上の方からなんですけど、待てと。
今月実は私も会いに行ってお話を伺おうと思っています
。思いがいい。
シャープになったからね。
I don't want to let people know that this made me shut up.
If something happened to me.Promise me to publish this documentary.
Black Box de Shuri Ito. Antoine Guillaume, c'est quoi cette Black Box?
Alors cette black box, c'est en fait c'est tout le non-dit de cette histoire. C'est le pouvoir à la fois, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pouvoir japonais, à l'intérieur de la police japonaise, à l'intérieur du système judiciaire japonais, qui fait que sa plainte a été classée sans suite, que le suspect principal devait être arrêté et puis mystérieusement quelque chose se passe et finalement on ne l'arrête pas. Et puis c'est aussi ce qui lui est arrivé à elle. C'est-à-dire qu'elle est victime d'un viol par soumission chimique et la scène cruciale, non seulement elle peut pas la filmer, mais elle ne s'en souvient pas, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et le film va tourner sans arrêt autour de cette image manquante qu'elle va essayer par une enquête de reconstituer, récupérant à la fois le témoignage d'un chauffeur de taxi, récupérant des images de télésurveillance, et puis surtout plongeant vraiment à l'intérieur de ça par le récit qu'elle fait. Ce qui est très passionnant dans ce film, vous l'avez entendu dans cette bande-annonce, vous dites qu'elle est en version originale, il y a deux versions originales puisqu'il y a deux langues.
Oui.
Il y a le japonais et il y a l'anglais. Et en fait, tout vient de sa capacité à trouver un langage pour pouvoir exprimer ça. Elle va nous parler en anglais, elle va se parler en anglais et de fait nous parler en anglais puisque tout le début du film, elle se filme la veille de la conférence de presse où elle va exposer sur la place publique ce qui lui est arrivé à cause d'un déni de justice puisque la police et la justice refusent d'enquêter sur son affaire et elle va parler à son téléphone portable en anglais. Pourquoi en anglais? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en japonais, et notamment sur cette question de la parole des femmes, qui en japonais n'existe pas sur ces questions-là. C'est-à-dire que non seulement les victimes des viols ne sont pas nommées, leur visage est toujours flouté, donc elles sont anonymisées une fois encore, mais surtout le langage japonais ne permet pas d'exprimer ça. C'est très troublant. Et de ces images qu'elle va filmer pour elle-même, pour se protéger, pour documenter au fur et à mesure son histoire, sans intention de faire un film au départ, elle va au bout du compte les retrouver, les retravailler pendant 4 ans de montage pour rendre justice à la jeune femme qu'elle était en direct au moment où elle le vivait. Ça, c'est déjà une chose assez passionnante. Ensuite, par le montage, elle va organiser le film comme une vraie enquête journalistique. C'est-à-dire qu'il y a un côté thriller journalistique très, très haletant, parce qu'il lui arrive des choses invraisemblables. Enfin, elle va se rendre compte qu'il y a peut-être des micros cachés chez elle. Là, on est quasiment dans la fiction paranoïaque américaine des années 70. Il y a une voiture qui est toujours garée en bas de chez elle. Donc, on sent que sa vie est réellement en danger, parce que son agresseur est très très proche du premier ministre de, Abe, de l'époque, le très inquiétant Shinzo Abe, et elle va devenir comme un personnage clivé en permanence, parce qu'il y a non seulement cette dissociation qu'il peut y avoir quand on a vécu un tel traumatisme, mais elle va être le sujet de sa propre enquête. Ah. Et elle va être la réalisatrice d'un film dont elle est aussi la protagoniste. Et c'est cette distance précisément, comme la distance de l'anglais et du japonais, puisqu'elle a vécu aux États-Unis, elle a fait ses études là-bas, c'est sans doute ce qui lui a donné le courage et la force d'entreprendre ce combat. C'est sur ce clivage permanent, en fait, et cette presque schizophrénie entre ce qu'elle est et ce qu'elle raconte d'elle-même, qui va donner toute l'attention de ce film, y compris dans la manière de mettre en scène. Mais quand je dis mettre en scène, c'est pas tricher. C'est-à-dire de mettre en scène cinématographiquement ses propres émotions dessus. Moi, je n'ai jamais vu, de mémoire, un film japonais où on rit autant, où on pleure autant.
On rit
aussi, ouais. C'est-à-dire qu'on se bat, il y a des moments de joie, et puis des moments aussi très durs, et elle n'hésite pas à filmer ses larmes. Il y a un très très beau moment où quelqu'un au téléphone va lui dire que oui, il accepte de témoigner à visage découvert et que son nom soit utilisé, et elle se filme en train d'avoir ce coup de fil, ses larmes arrivant en disant c'est incroyable que cet homme parle, et on entend presque les larmes de la personne au téléphone en train de lui dire ben oui, c'est important, je me mets en danger, mais il faut faire cesser les violences sexuelles au Japon. Et ça provoque des moments cinématographiques assez inouïs pour le spectateur.
Raphaël Pierre.
Oui, c'est ça que le montage arrive à construire avec beaucoup de force. Parmi ses 400 heures de rush, elle a réussi à trouver une rythmique et une gamme d'émotions qui est très riche et qui varie énormément. Et effectivement, elle se transforme, à travers ce film, elle se transforme en personnage, en héroïne, quoi. Et c'est vrai qu'elle rit beaucoup à plein de moments. À un moment même, elle poursuit son agresseur. Et puis elle revient essoufflée et c'est un moment très drôle.
Elle poursuit le chef de la police qui a refusé d'arrêter son agresseur. Voilà.
Et on est vraiment dans une scène d'action de film hollywoodien, mais tournée avec une petite caméra et cette jeune femme très frêle. Et elle incarne vraiment, presque un personnage de grand cinéma, de cinéma de fiction, quoi. Et donc c'est très étonnant toujours ce basculement entre la construction qu'elle fait en piochant à travers ces centaines d'heures de rush, comme elle arrive à construire un récit qui est très homogène, alors qu'elle passe par 8 années de déni de justice, d'impossibilité de faire entendre sa voix. Et ce qui est très, très émouvant aussi, je trouve, c'est la façon dont elle s'adresse à différentes personnes. Et elle commence par une adresse aux victimes de violences sexuelles. Et elle leur dit, si elle écrit elle-même à la main, comme s'il s'agissait vraiment d'un journal écrit, puisqu'elle est partie comme matériau d'un journal qu'elle avait enregistré en audio et puis filmé aussi. Et elle leur dit... il va y avoir des moments durs dans ce film, mais faites comme moi, fermez les yeux, respirez et ça va aller. Mmh. Et puis elle s'adresse aussi à ses parents plusieurs fois, d'une part parce qu'elle a peur pour sa vie et qu'elle dit « si jamais on me retrouve morte, sachez que je ne me suis pas suicidée et qu'il faudra enquêter sur ma disparition », ce qui est quand même glaçant. Et puis elle s'adresse plusieurs fois à ses parents pour dire « je suis désolée de la honte que mon histoire provoque chez vous, mais je dois témoigner, je dois le faire ». Et donc ces adresses très intimes sont très percutantes aussi dans la simplicité avec lesquelles elle les conduit.
Mais elle a fait changer la loi quand même au Japon. À la marge, on va dire, mais en tout cas, oui, évoluer.
Il faut savoir que la loi n'avait pas changé depuis, je ne sais plus... 110 ans. Ce qu'elle a fait, déjà, c'est qu'il y a une loi qui a passé la majorité sexuelle de... je ne sais plus, de 13 à 15 ans. Et puis qu'il y a tout un combat qui se fait. Il faut savoir qu'elle est à l'origine d'un mouvement japonais qui est cousin de MeToo, qui s'appelle WeToo, qu'on voit aussi dans le film, ça c'est incroyable, documenté le moment où l'affaire Weinstein apparaît aux États-Unis, disent, ah, vous voyez, il y a ce type, il y a ce producteur là, il y a des femmes qui ont osé témoigner contre lui. Donc il y a un effet qui se passe, qu'on voit, y compris à la Chambre des députés, des députés d'opposition s'emparer de cette affaire. Enfin, il y a un mouvement qui commence à se faire, mais enfin, le combat est encore très compliqué et très très long. Et de fait, effectivement, son film ne peut pas pour l'instant sortir au Japon. C'est-à-dire que le film est sorti dans des dizaines de pays dans le monde, a remporté des prix du public. public dans quasiment tous les festivals où il a été présenté, mais le Japon ne veut toujours pas, toujours pas voir ça.
Mm-hmm. D'ailleurs, au Japon, elle a subi l'opprobre total.
Oui, c'est très saisissant ce qu'elle raconte des réactions et beaucoup de réactions de femmes qui lui disent on n'a pas le droit de raconter ça, on n'a pas le droit de dire ce genre de choses. Elle raconte aussi qu'elle a beaucoup tourné avec le film à travers le monde et que au Texas, elle a rencontré une spectatrice japonaise vivant aux États-Unis qui lui a dit au début j'avais peur de voir votre film et je pensais vraiment que vous attiriez l'attention sur vous. Dans des fins pas très respectables.
Oui.
Et après avoir entendu toute votre histoire dans le film, je suis vraiment désolée d'avoir été de ce côté-là, du côté qui méprise les victimes, et je suis vraiment touchée par votre histoire. Donc il y a un basculement, mais qui est aussi à double tranchant, parce qu'elle raconte également qu'elle a fait l'objet de tellement de campagnes terribles sur les réseaux sociaux de dénigrement que beaucoup de victimes lui écrivent en disant « Je ne porterai jamais plainte pour l'agression que j'ai subie parce que ce que vous avez traversé me montre que moi, je ne suis pas capable d'affronter toute cette opprobre-là.
Mais à l'inverse, on voit dans le film des militantes pour les droits des femmes, et notamment des vieilles dames extraordinaires qui, dans la rue, avec un haut-parleur, haranguent les passants, leur disant... Il y a une scène très folle, en fait, où elle-même, Shiro Ito, passe devant, il y en a une qui la reconnaît, l'autre pas, et une fois qu'elle est partie, je dis, ah bon, mais c'était elle pour laquelle je me bats depuis des années. C'est ces petits moments-là qui sont vraiment, pour le coup, du cinéma. C'est purement du cinéma, et c'est là encore la très très bonne surprise de ce documentaire.
Black Box Diaries de Shiori Ito qui sort aujourd'hui sur les écrans. Et je précise, Antoine, que vous l'aviez reçu, Shiori Ito, samedi dernier dans Plan Large, et que le podcast de l'émission est dispo, évidemment. J'en profite aussi pour parler d'un événement qui nous tient à cœur. France Culture lance la nouvelle édition du prix Cinéma des étudiants en partenariat avec Combini et l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, la CID, et avec le soutien du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tous les étudiants, qui que vous soyez, sont invités à rejoindre le jury des prix cinéma. Durant 5 semaines, vous aurez accès gratuitement à 8 films. Vous pourrez échanger en ligne avec les réalisateurs et voter pour vos coups de cœur. Les prix seront remis lors d'une cérémonie à l'occasion du prochain Festival de Cannes. Alors voilà, si vous êtes étudiant, si vous aimez le cinéma, inscrivez-vous avant le 30 mars pour rejoindre le jury. Tout ça, c'est sur le site de France Culture. Antoine Guillaume, Raphaël Pirer, merci beaucoup d'être venu dans les midis aujourd'hui. Toutes les références, les infos, c'est sur la page des Midis de Culture et sur le site de France Culture.